One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéenne.
Bonsoir, je suis Laureline Mathiussi.
Bonsoir, je suis Michel Blanc.
Ping pong. La culture sans limite. Oh, yeah.
Et si la rentrée n'avait pas lieu ? Angoisse, ce doit être le mot le plus récurrent cette veille suffocante de rentrée des classes. Une angoisse, disons, classique, doublée d'une angoisse sécuritaire, bien sûr, d'une angoisse généralisée, peut-être. J'espère que vous serez là le 5, car j'angoisse, écrit un animateur de télé populaire à ses abonnés Twitter. Rien ne va plus.
Cueillette interdite, là ! Vous arrêtez la cueillette ! Et ça, ils ont mis la marquette, pêche interdite ! Vous, bagnade interdite, vous arrêtez à vous baigner, là ! Et vous, hein, bikini interdit, vous m'enlevez ça ! Interdit ! Allez, c'est fini les vacances, là ! Retournez au boulot, allez travailler ! Feignard ! Fasciste !
Pour dégonfler la baudruche anxiogène de septembre, il existe un médicament littéraire. Imaginez une seconde, une France où les gens refusent de rentrer travailler. C'est l'idée libératrice d'un premier roman, La rentrée n'aura pas lieu. Peur du burn-out, lassitude de la crise, perte de sens, déception anticipée pour la présidentielle, menace terroriste bien sûr, trop, c'est trop. Dans cette fiction libératrice, les autoroutes restent vides, le taux d'absentéisme dans les entreprises explose, la rentrée des classes est indéfiniment reportée, le sud de la France est en surpopulation. Les commentateurs sont désemparés. Une révolution douce qui donne des idées et fonctionne comme un joyeux antidote. La rentrée n'aura pas lieu de Stéphane Benhamou. C'est paru chez Don Quichotte. Michel Blanc, ça vous est déjà arrivé de pas vouloir rentrer ?
Ah ouais, quand j'étais petit, à l'école, la rentrée, ça me minait de voir dans les supermarchés de l'époque les cartables dès le 15 août en vente. J'aurais foutu le feu aux locaux, tellement ils me gâchaient la fin de vacances.
Et vous, Laureline Mathieu, vous aimez acheter vos crayons ?
J'aime acheter mes crayons, mais j'ai jamais aimé la rentrée des classes non plus.
Est-ce qu'il n'y a pas, on vous pose la question à tous les deux, une morosité sociale ambiante qui paraît ça paraît presque envisageable ?
Ce qu'on entend n'est pas spécialement roboratif, mais personnellement, moi, j'ai des projets qui me plaisent bien, donc je suis très égoïste, hein, pardonnez-moi, mais je me mets à la place des gens. Ce qui nous attend n'est pas forcément joyeux, oui.
C'est devenu de plus en plus difficile. Ça fermait un peu partout. On bricolait à droite, à gauche.
Merci, madame. Au revoir.
Les gens avaient de moins en moins de pognon dans le coin. On était prêt à prendre tout ce qui se présentait.
Je veux que tu tues ma femme.
Pourquoi moi ?
Parce que je t'aime bien.
Fais de ma gueule.
Je pense que t'es le genre de mec qui a besoin du job, mais qui irait pas bavasser s'il le refusait. Un mec qui a plus de gonzesse, donc pas de confidence sur l'oreiller. Enfin, le candidat idéal, quoi. La période est dégueulasse et ça va pas en s'arrangeant. C'est pas le moment de refuser du boulot.
La période est dégueulasse et Romain Duris alias Jacques Scoran se voit donc proposer un petit boulot par Gardeau que vous incarnez, Michel Blanc, le mafieux local dans une petite ville industrielle ravagée par le chômage, un petit boulot banal, en temps de crise, commettre un meurtre. Mais comme le type est honnête, il est plutôt hésitant même, on peut s'empêcher d'avoir peur pour lui tout au long de ce dernier film de Pascal Chomeil, dont vous signez également le scénario, Michel Blanc. Oui. Or, vous avez dit quelque part que pour qu'un rôle vous excite, il faut que vous en ayez peur au départ. Qu'est-ce qui, dans ce projet à la fois d'adaptation, mais aussi dans le rôle de André Gardeau, vous faisait peur, pour que vous ayez accepté la mission ?
Alors, c'est deux trucs tout à fait différents. Pardon, comme je suis bavard, je vais prendre sur
Parlons
notre amie dessinatrice.
Le rôle, à l'adaptation.
C'est surtout sur le rôle. Les rôles qui me font peur, mais que je trouve intéressants, ont les deux qualités, à savoir l'aventure, la nouveauté. Ça veut dire que je ne l'ai pas déjà fait. En même temps, comme je ne pense pas immédiatement, je suis tellement fort que je vais y arriver. Si un metteur en scène ne me dit pas « moi, je crois que tu peux le faire », il me manque quelque chose. Mais quand j'ai pas la peur, c'est mauvais signe.
Et ce mafieux en Range Rover avec des chaussettes dans ses tongs, Il vous effrayait sur le papier ?
Il a souvent pas des chaussettes dans les tongs. Il n'y a que chez lui où il se lâche un peu. Sinon, il est en costume noir avec une chemise blanche. Il est très. Et ce qui me faisait peur, c'est qu'il doit faire peur. Et j'ai jamais joué de personnage capable de sortir un revolver simplement parce qu'il y a eu une méprise et qu'on m'a dit fais attention. Et quand on dit mais fais attention à ce type-là, il tire. Ce qui est un réflexe qu'on n'a pas, nous. Enfin, j'espère vous. Non ?
Laureline Matrici,
mais vous n'avez pas de
revolver quand même.
Il y a des flingues dans le roman graphique polar de Laureline Matrici. Mais Michel Blanc, vous aviez déjà adapté Vacances anglaises de Joseph Conley. C'était donc pour le. Oui.
Je peux vous aider, je n'hésite pas.
Redonnez-moi le titre du film.
Embrasser qui vous voudrez.
Voilà, c'était devenu ça dans votre réalisation. Vous aimez bien transposer la littérature et le théâtre au cinéma. En l'occurrence, ce roman, ce polar social de Ian Levison, au départ, c'est une adaptation dont vous n'avez pas voulu. Alors pourquoi et qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis ?
J'ai eu peur que de brouiller les pistes. J'ai eu peur, en fait, c'est un manque de confiance peut-être, mais autant j'adore en tant qu'acteur me lancer dans des choses que j'ai jamais faites. Je me dis après tout, si je me casse la figure, tant pis pour moi. Autant là, ça engage beaucoup de choses et j'avais peur que mon nom à côté enfin sous le titre ou au-dessus, on s'en fout, que mon nom ne donne une indication qui n'est pas juste. Le film, c'est une comédie vraiment, mais c'est une comédie différente justement de Vacances anglaises, parce qu'il y a une dimension. Il y a un fond social qui est dans le roman, qui n'empêche pas de faire une comédie, mais c'est plus difficile à écrire une comédie qui est sur le fil comme ça. Et je me suis dit, si en plus je rajoute mon nom, les gens vont avoir une fausse information, c'est tout.
Et comment vous changez d'avis alors ?
Ah, j'ai pas changé d'avis puisque je l'ai pas mis en scène, mais par contre.
Vous avez quand même signé l'adaptation, les dialogues,
ah,
le scénario.
Ah oui, non, j'avais envie de l'écrire. J'avais envie d'écrire le scénario, mais de le mettre en scène, je me disais, il vaut mieux que ça soit quelqu'un d'autre. Et en plus, Pascal l'a magnifiquement fait, donc j'étais très content.
Et dans le texte de Ian Levison, qu'est-ce qui vous a régalé ? Vous qui êtes énormément lecteur, surtout avec, dans l'idée en général, une adaptation future.
Oui, je ne lis pas que pour adapter, parce que quand il y a un bon roman, je le lis pour rien. Enfin, pour rien, sans but lucratif.
Mais c'est tout.
Mais il y avait justement cette dualité, réalité sociale, comme certains films anglais, ils arrivent à faire des, je sais pas si vous êtes d'accord, mais ils arrivent à faire des films avec un fond réel, social, dur, et à nous faire rire, comme Full Monty, etc. Voilà, et je me suis dit, je suis pas sûr d'y arriver, mais c'est intéressant, non, d'essayer, enfin, je sais pas, mais bon, voilà, ça me...
Laureline Matuissi, vous emparez aussi de la question sociale à travers les planches de votre bande dessinée, de votre roman graphique qui est publié donc dans la collection Écriture de Casterman. Je viens de m'échapper du ciel. Il y a un arrière-plan, un décor social, mais vous, plutôt que d'aller du côté de la comédie, même s'il y a de l'humour, on est du côté de la fantaisie, de l'onirisme, de la folie, de l'imaginaire dans cette adaptation, parce que c'est aussi une adaptation des nouvelles de Carlos Salem. Justement, parlez-nous du travail d'adaptation. Comment est-ce qu'on s'empare de cette littérature pour en faire, comme vous le faites, des planches en noir et blanc ?
Alors moi c'est un peu particulier parce qu'en fait je ne connaissais pas le travail de Carlos Salem et il se trouve que c'est lui qui me l'a fait découvrir. En fait on s'est rencontrés sur un salon de polar, on a sympathisé et en fait il m'a offert son tout premier roman qui s'appelle « Aller simple ». Qui est formidable.
Je vais me jeter dessus.
Ah, il est vraiment extraordinaire, en fait. Et donc, j'ai adoré ce premier roman qui est très drôle, qui est très onirique, très poétique aussi. Il y est, par exemple, question du fantôme de Carlos Gardel qui veut tuer Julio Iglesias. Moi, ça me plaisait beaucoup.
J'aime beaucoup ça.
Ah, c'est très bien.
Carlos Salem, c'est pour vous, Michel.
Non, c'est.
Et quelqu'un qui veut tuer Julio Iglesias.
Non, c'est.
Pour rien.
Vous lui filez combien ?
On est d'accord, pas comme dans un petit boulot. Non, mais est-ce que vous aviez peur aussi ? Est-ce que ça, c'est un des éléments qui vous titille, qui vous travaille, qui vous inspire ?
Alors, attention, justement, mon adaptation n'est absolument pas une adaptation d'Aller simple. En fait, Carlos Salem m'a proposé... J'allais dire Carlos Gardel
le fait. Ce pas de deux.
M'a proposé d'adapter quatre nouvelles qui n'avaient pas été traduites en France. Et voilà, et comme j'avais beaucoup aimé Aller simple, il se trouve que lui avait pu découvrir mon travail aussi de son côté. C'est la raison pour laquelle il me me l'a proposé. Mais voilà, j'ai accepté avec joie, sans vraiment savoir quelle était la nature de ces nouvelles, parce que je parle pas l'espagnol. Et en fait, j'ai joué sur un pari un peu absurde aussi, en me disant, oh, il a écrit ce livre qui est formidable, ça devrait être bien. Et voilà. Et ensuite, on a œuvré tous les deux pour que des copains nous fassent les traductions. Et voilà. Et après, je me suis retrouvée avec cette matière-là. Quatre nouvelles, ça constitue pas tout à fait un récit. Et du coup, il a fallu. Mais c'était aussi ce en quoi c'était très intéressant, c'est qu'en fait, j'avais tout à apporter à ça. C'est-à-dire, j'étais pas face à un récit qui était déjà constitué dans son intégralité. Il fallait que je puisse me réapproprier tout ça, mais que je reconstruise un fil narratif. Et voilà, et que je réinjecte à l'intérieur de ces quatre nouvelles quelque chose qui puisse en faire un récit pleinement, en fait.
Et en l'occurrence, oui, pardon.
Non, mais pour en revenir à la peur, évidemment, enfin, on a toujours peur aussi, on a tellement peur de ne pas y arriver.
Mais vous ne pensez pas que c'est un...
Michel Blanc.
Vous ne pensez pas que c'est un stimulant formidable, c'est comme une décharge d'adrénaline qui est nécessaire. Moi, je le ressens comme ça. Il y a une peur paralysante et puis il y a une peur qui vous envoie une décharge électrique qui vous secoue dans le bon sens.
Je pense que oui, en effet, la remise en question est quelque chose de formidable. Je pense qu'on ne peut faire de bonnes choses qu'en se remettant en question en permanence. Sinon, on tombe dans l'habitude et c'est forcément moins bien.
Les Anglais
après, moi, j'ai tendance
terme, hein.
parfois à avoir des petites peurs paralysantes. Enfin, je sens que je passe beaucoup de temps à avoir peur et que si je pouvais y passer un peu moins longtemps, ça pourrait me soulager un peu parfois.
Les Anglais ont le terme cliffhanger, hein, où on se suspend au bord de la falaise pour voir si on va réussir à... se galvaniser.
Mais vous savez, il y a par exemple deux types de tracks. Je parle de là un peu boutique de comédiens, de théâtre. Hein. Vous avez des gens qui ont le track. Moi, j'ai le track jusqu'à ce que le rideau se lève et que je rentre en scène. À partir du moment où je suis en scène, en temps normal, je n'ai plus le track. Ou alors, c'est que j'ai pas bien répété, que je suis pas au point. Et il y a des gens qui ont le track pendant toute la représentation. Mmh. Et il y a donc un track qui est constructif et un track qui est destructeur. Et ça dépend des gens.
Alors cela dit, moi je fais des concerts dessinés. Pardon. Je fais pas mal de concerts dessinés.
Non, je précise
parce que c'est vrai que nos voix sont un peu les mêmes.
Oui, je fais un travail de sous-titrage radiophonique assez laborieux, mais en tout cas je le fais.
Mais de plus en plus d'auteurs de bandes dessinées se prêtent à des spectacles qui mêlent le dessin, la musique. Moi, je travaille aussi avec des comédiens, etc. Et en effet, du coup, j'ai pu approcher ce track-là qui est terrible avant de monter sur scène, mais qui en effet disparaît une fois qu'on y est. Et ça, c'est très, très stimulant.
Vous n'avez pas des blancs au sens propre du terme quand vous dessinez sur scène pendant le
concert.
Mais
alors, par contre, rien n'est improvisé. Ce que je conçois en termes de spectacle, tout est écrit, en fait, pour moi aussi. Donc, il n'y a pas exactement de blanc. Il y a des moments de doute quand même et des moments de mise en péril, mais pas exactement des moments de blanc.
Il y a quelque chose qui va vous rapprocher encore plus, Michel Blanc et Laureline Mathusi, c'est que dans les deux œuvres, il y a une sorte de système inversé des valeurs. Vous allez me dire si vous me suivez. C'est-à-dire que chez Michel Blanc, ce tueur à gages qui est Romain Duris, qui va accepter ce petit boulot, il s'était imaginé plein d'autres boulots avant, plein d'autres trucs pour s'ouvrir vers la crise, et puis finalement, tiens, devenir tueur à gages, pourquoi pas. Il le fait avec un système de valeurs inversé, oui. Il réinjecte de l'honnêteté, il réinjecte de la morale, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Et il y a aussi, chez vous, Laureline Mathusi, cette conscience-là, chez les héros. On va retrouver, par exemple, le héros qui est capable de tabasser un monsieur qui parle mal à une employée de banque. Ou alors, on a Pau encore, votre héros, qui dit « J'aimerais que les méchants payent enfin ». Est-ce que dans ces deux pots-là, peut-être vous allez pouvoir nous répondre successivement, il n'y a pas un système de valeurs parallèles, puisque celui existant ne fonctionne plus. Michel Blanc, Laureline Mathusi.
Je vous en prie.
À vous l'honneur, Michel Blanc.
Je vais être bref pour une fois. Ce qui définit très bien le personnage que joue Romain Duris, Jacques, il dit, j'ai toujours été, parce que c'est vrai que ça a été avant l'extinction totale de la zone en termes économiques, ça a été un ouvrier... d'une honnêteté, d'une droiture, d'un professionnalisme. Et il dit, j'ai toujours été honnête jusqu'au bout des ongles. Je lui ai dit que je la tuerais. Vous voyez, il y a cette dualité. Et de même, quand l'autre lui dit, mais t'es cinglé, tu as gardé le revolver que je t'ai donné, pourquoi tu l'as pas jeté? Il dit, parce que il m'est resté ce respect de l'ouvrier pour les outils.
Et on peut pas révéler tout le scénario, mais
non,
ça
non,
va,
mais
ça
c'est,
va,
c'est,
ça
c'est
va
dans
être
la psychologie,
très récurrent dans la psychologie.
Dans la psychologie du personnage, c'est important.
Et il se trouve d'ailleurs que vous co-signez le scénario Michel Blanc avec Franz Bartelt.
Non, pas du tout.
Ah, on le voit au, crédité au générique.
Il est crédité parce
qu'il a surpris de le retrouver, lui qui a été ouvrier avant d'être auteur.
Non, il a été. Il y a eu un moment de flottement dans le scénario, dans le montage du film, et ils ont fait travailler. Ce type dont j'ai lu d'ailleurs un roman qui était fort intéressant, mais ça s'éloignait de ce que j'avais écrit au départ, et au bout d'un moment j'ai dit écoutez, on peut pas avoir eu, c'est pas une fugue à deux voix, donc ou bien je reprends tout. Voilà, mais comme il a travaillé dessus, la moindre des choses, c'est de créditer de son travail.
Laureline Mathusi, il y a ce système un peu d'honnêteté parallèle, de valeur inversée chez les gentils malfrats.
Gentil malfrat, je sais pas. En fait, j'ai du mal avec cette notion de valeur inversée. En fait, on est effectivement au milieu de personnages qui sont un poil désespérés, un peu fous.
Un système de valeurs parallèles. Hein.
Ouais. Mais oui, j'aimerais que les méchants paient enfin. Alors, il faudrait tout recontextualiser, mais c'est personnage qui est mon personnage central et un personnage un peu lâche, mais en même temps assez une sorte de loser magnifique.
Voilà, il est plein de contradictions parce que vous le dites, Po, votre héros, je viens de m'échapper du ciel, c'est à la fois un loser et un porte-bonheur, et on retrouve le même genre de héros dans Un petit boulot, donc scénario de Michel Blanc, où on a à la fois un loser chanceux. Est-ce que cet oxymore, c'est pas justement ça qui fait un bon héros, ces contradictions?
Je vous en prie.
C'est gentil.
J'arrive pas.
C'est le silence numéro 5 de ping-pong. Non, on les garde, on les enregistre, on a une collection.
Non, c'est simplement. Je suis tout à fait d'accord sur le fond, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est d'avoir. Parce qu'un loser, qu'est-ce que vous faites avec un film désespérant? Voilà.
Il se flingue.
Oui, il lose, comme diraient certains. Par contre, c'est intéressant de voir quelqu'un qui a tout perdu, sauf, comme disait, selon l'expression, fort l'honneur. Et voilà. Tout est perdu, fort l'honneur, disait un de nos ancêtres. Pas le mien, hein. Je ne descends pas
de famille.
De famille royale, mais voilà, c'est ça. Ce qui lui reste, c'est quand même, le respect de soi, à un certain moment, et moi, je suis assez admiratif de ça.
Non mais...
Oh. Allez. Salut vieux. Salut, il est sympa, hein.
J'ai des trucs à te dire, Gardeau.
J'ai depuis ce matin. Viens, gamin. Hein, son pépère.
On va te parler, en particulier.
Je l'ai appelé Klebs 2.
Et Klebs 1, il lui est arrivé quoi?
Bah attends, dans l'intérieur. T'as de la merde dans les oreilles ou quoi?
Qu'est-ce qu'il prend?
Mais il a raison, qu'est-ce qu'il prend?
Lâche-nous, t'as compris? Fous le camp dans le bar!
Oh, tu commences à me faire chier avec tes humeurs! Alors ferme ta gueule, ok?
Bon, sois gentil, va nous commander des bières, on arrive dans 5 minutes.
C'est un flic, ce mec.
Tu me casses les couilles, Jacques. Depuis le début, tu peux pas le blairer.
Ouais, et depuis le début, j'ai raison. Tout à l'heure, il m'a passé un stylo. Cet après-midi, le même stylo était sur un bureau chez les flics. Il y a de la pub pour un hôtel de la boule dessus. Et je l'ai mâchouillé en attendant, il y a encore mes traces dedans.
Et toi, qu'est-ce que tu foutais chez les flics?
Rien, il veut me parler de Brèche, le mec de la station-service.
Pauvre connard! Je t'avais dit de faire disparaître le flingue!
Le problème n'est pas là. Carl traîne là-bas parce qu'il bosse pour eux.
Ouais. Toi aussi, tu y étais, ça veut pas dire que t'es flic. Gage! Tu m'en as déjà bousillé un! Alors arrête, merde!
Hein, c'est le chien que
vous
entendez.
Ah oui, c'est le chien, oui, c'est important.
Oui, parce qu'il y a aussi La mort d'un chien, Un petit boulot, signé Pascal Chaumet, disparu l'année dernière. Le scénario, l'adaptation et l'un des rôles, c'est vous qui vous en emparez. Michel Blanc, vous êtes Gardeau, face à vous, vous avez Jacques, donc qui a accepté ce premier petit boulot qui est de tuer votre femme. Là, vous avez encore un échange. Vous signez les dialogues et c'est très important. On en a entendu un échantillon dans cet extrait. Il y a aussi une phrase culte que j'ai retenue. J'espère que tu m'as fait descendre un innocent parce que si j'ai tué un flic, je suis mal.
Oui, mais ça, c'est des choses qui sont très plaisantes à écrire, mais c'est la situation. C'est vrai qu'il a tiré par parce que l'autre lui a fait peur en disant fais attention. Comme il était de dos, il s'est retourné. Il fait partie de ces gens qui tirent et après on discute. Mm-hmm. Hein, mon personnage. Donc voilà. Après, il y avait plus de discussion possible. Et pourquoi tu l'as tué? Parce que tu m'as dit fais attention. Et d'un seul coup, comme il y a une suspicion sur le personnage qu'on vient de descendre, que je viens de descendre, il espère très profondément que c'est un innocent, parce que tuer un flic, c'est très très embêtant pour un type comme lui. Voilà.
Mais quel plaisir vous avez eu justement dans l'écriture des dialogues. Est-ce que vous aviez un panthéon des fantômes qui tournoyaient au-dessus de l'ordinateur ou de la feuille de papier?
Appelons ça autrement que des fantômes, appelons ça des phares, des gens qui m'ont régalé avec leur dialogue et auxquels je ne me comparerai jamais. Mais certainement, il y a une filiation affective, pas forcément littéraire, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément à leur hauteur, mais en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Voilà.
Mais
on a tous ça, j'imagine.
Vous nous racontez peut-être un phare, un mot, un nom.
Oh, il y en a plein, il y en a plein, parce que ça commence très tôt dans le cinéma français, avec les premiers. Et c'est pour ça que je dis je ne me comparerai pas, vous imaginez. Alors, faites attention, écoutez bien ce que j'ai dit avant, parce que sinon, vous allez passer pour le... Mais voilà, quand vous entendez des Prévert, des dialogues de Prévert, des dialogues de Janson, les dialogues de Clouzot dans 36 Quai des Orfèvres... Non, dans Quai des Orfèvres, pas 36, c'est un autre film. Dans Quai des Orfèvres, quand vous entendez les dialogues de Blié, quand vous entendez les dialogues d'Orange, les derniers étant, grâce à Dieu, Tavernier l'a récupéré pour faire que la fête commence, qui sont peut-être les plus beaux dialogues qu'on ait écrits dans la période post-Nouvelle Vague. Voilà, ces gens-là, je les admire au plus haut point.
Alors,
ça suffit pas, mais ça, je veux dire, ça suffit pas pour écrire, mais ça suffit pour être enthousiaste, voilà.
La scène dont on vient d'écouter un extrait, Michel Blanc, se passe dans la forêt. Il y a aussi non seulement les dialogues, mais aussi l'importance du décor dans ce film, donc signé Pascal Chaumeil, un décor urbain désolé, qui est un tournage qui a eu lieu en Belgique, hein, dans des villes industrielles de briques rouges. Et il y a aussi, Laurent-Nil Matuissi, un décor urbain à l'arrière-plan de votre roman graphique « Je viens de m'échapper du ciel ». Il y a des rues pleines de travestis et de clochards moribonds. Comment est-ce que vous avez travaillé pour justement ce décor? Vous avez exploré les rues comme ça avec une lampe torche. Il y a d'ailleurs des très belles scènes de phares dans la forêt où vous avez imaginé, fantasmé ce paysage.
Il y a aussi beaucoup de friches industrielles et en fait avec lesquelles j'ai une forme de familiarité. Alors pas exactement la friche industrielle, mais moi en fait ma famille est originaire de la vallée sidérurgique en Lorraine. Ah. Et il se trouve qu'à l'époque où, enfin quand j'étais petite, il y avait encore des hauts fourneaux qui étaient en action. Il y avait une montagne dans le fond du jardin de ma grand-mère, donc que j'ai toujours envisagé comme étant une montagne. Et il s'avérait que c'était un crassier. Et voilà, et j'ai parcouru toute mon enfance comme ça, des paysages avec ces hauts fourneaux qui crachaient le feu, ça ressemblait un peu aux bouches de l'enfer. Et mine de rien, j'ai nourri à partir de ça une forme de, je sais pas, un rapport comme ça un peu mélancolique et poétique, où il y a une forme de sinistre et en même temps de grandiose en fait qui accompagne tout ça. Et je pense que tout ça, voilà, nourrit aussi un petit peu ce que j'ai pu faire ensuite. Là, dans ce bouquin, par exemple.
Si je peux me permettre...
Michel Blanc, permettez-vous.
Là, je trouve que entre guillemets, ce qu'on appelle la friche industrielle, a la dimension poétique des ruines au 19e. Ce que les romantiques aimaient retrouver, rongé par la nature Nerval. Qui reprenait ses droits. Il y a quelque chose du même ordre, à savoir cette nostalgie d'une vie qui a été là, qui a été... forte, qui a été importante et qui n'est plus. Et c'est assez bouleversant dans les deux cas de figure.
Il y a une véritable esthétique de la ruine, hein, en ce moment, en tout cas. Enfin, si ça vous intéresse, il y a l'artiste Cyprien Gaillard qui a travaillé dessus. Il y a aussi un livre de photos magnifique sur les lieux culturels abandonnés dans la ville de Détroit qui a été fait par deux photographes français.
Et il est très bien.
Voilà.
Je crois que je l'ai vu, ça. C'est superbe, ça.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train, effectivement, de prendre, on va dire, une sorte de renouveau romantique du 21e. Ouais.
Thank you.
Michel Blanc, il y a 3 disques qui ont changé votre vie. Les valses de Chopin, Jeune homme de Mozart et une version orchestrale des rhapsodies hongroises de Liszt. Mais il y a aussi un livre qui a changé votre vie. C'est un livre de Jean Echenoz sur Ravel.
Ah, il n'a pas changé ma vie, hélas, parce que j'aurais aimé
mais
mettre
oui.
en scène. Mais
les 10 dernières années de la vie de Ravel, on vient d'écouter le concerto pour la main gauche.
D'accord. Je me demandais pourquoi vous aviez passé cette chose que j'aime beaucoup. Non, j'ai adoré le bouquin d'Echenoz. Voilà. On dit Echenoz en Suisse, comme j'ai fait de la promotion à Lausanne, j'ai tendance à le faire à la Suisse. Donc Echenoz, j'ai adoré ça, d'abord parce que c'est magnifiquement écrit, ensuite parce que l'histoire, la biographie de Ravel est assez bouleversante, ensuite parce que c'est un compositeur absolument extraordinaire, et troisièmement, quatrièmement, parce que c'est impossible à faire, parce que personne... Il n'y aurait pas suffisamment de public pour pouvoir récupérer les fonds qui seraient nécessaires à la fabrication du film. Parce que ça se passe vraiment pendant le moment où il va traverser l'Atlantique sur un paquebot, aller à New York, rencontrer Gershwin, qui va lui demander éventuellement « vous voulez pas me donner les leçons ?» Enfin, c'est assez extraordinaire. Et pour quelqu'un qui aime la musique, forcément, c'est du pain béni. Mais je ne sais pas à qui je pourrais bien demander de jouer Ravel. Ni Gershwin d'ailleurs, mais il y a plein d'acteurs américains, ça je suis sûr que je trouverai. Enfin voilà.
Il se trouve, Michel Blanc, avant même la lecture de ce roman d'Echenoz, vous avez connu un amour fou et que vous avez eu le cœur brisé par, sinon un piano, par le piano.
Ouais. C'est-à-dire que en fait, j'ai toujours rêvé. Alors, vous voulez des confidences, je vais les faire très rapides parce que quand même, je ne voudrais pas accaparer l'émission.
Mais on a du temps.
Il faudrait quand même que...
On y vient.
Ma camarade puisse s'exprimer. Quand j'étais petit, ma grand-mère avait l'habitude de m'emmener les après-midi. Alors, ça montre mon âge. C'était le jeudi à l'époque. chez sa meilleure amie, qui habitait Courbevoie, côté de là où nous habitions, qui était une dame qui avait un peu plus de... Moi, je suis d'un milieu très populaire, mais... son mari avait une petite entreprise, comme on dit. Et elle avait un piano chez elle. Et pendant que ces dames bavardaient dans la cuisine avec des petits gâteaux et du café parce que c'était connu dans le Nord et qu'il y a toujours une cafetière sur le coin du feu, eh bien moi, j'étais devant le piano, je tripotais. Au bout d'un moment, on m'a dit « mais t'aimes ça ?» Mes parents m'ont dit « mais t'aimes ça ?» J'ai dit « oui, oui ». Et tu veux prendre des cours ? Et on m'a emmené voir une prof de piano à Puteaux, et je suis arrivé, j'ai été terrifié, parce que j'ai vu une dame très laide. En fait, c'est pour des raisons esthétiques que j'ai pas...
Que j'ai c'est l'inverse de la chanson tard. De Jeanne Moreau, quoi.
Oui, une bonne femme très laide, avec une petite fille, genre la caricature, vous savez, avec la couette derrière, et puis la jolie position. Et je me suis dit, quand je pense que je vais passer mes jeudis après-midi avec elle, au lieu de la passer avec mes potes, et j'ai dit non, finalement, j'aime pas le piano, ce qui était une erreur. Et j'ai mis 10 ans... Enfin, pas 10 ans, mais 8 ans pour revenir sur ma décision. Et quand j'ai eu 13 ans, j'ai dit à mes parents, quand même, j'aimerais bien. Mais il était trop tard. Voilà l'histoire de ma vie.
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong, l'émission Noir Polar et Rouge Désir avec l'acteur et scénariste Michel Blanc et la romancière graphique Laureline Matuissi. À suivre, un Rocky Horror Picture Show et une très cinématographique plongée dans votre bande dessinée. Musique.
Ping-pong. La culture sans limite.
Dans le film Un petit boulot, on écoute le cœur battant Camillo chanter Ich bin allein. Mais alors, foin de solitude avec notre disque du jour, parce que ses auteurs sont 4, engagés dans une sorte de conjuration des égos. L'album s'intitule Equal Crossing. C'est le nouveau projet du violoniste Régis Subi, dont les partenaires dans le crime ne sont autres que le guitariste Marc Ducret, Bruno Angelini au clavier et Michele Rabbia aux percussions. Et Ping Pong vous encourage à rejoindre leur conjuration petit à, parce qu'un peu de son inusité, pour reprendre le terme de Claude Lévi-Strauss qui leur sert de boussole, eh bien, est doux à nos oreilles et on l'espère aux vôtres. Petit B parce qu'à l'heure de Twitter et autres manières de dire et de vivre lapidaires, voilà un album qui n'a pas peur de déployer une musique de chambre électroacoustique à la fois pleine d'expérimentation et diablement décidée. Et enfin, petit C, parce que le jazz, le mot est lâché, de Régis Subi et de ses frères d'armes, gentlemen improvisateurs, nous rappelle que le futur reste à inventer. Ce morceau s'intitule « Are We From ?» avec un point d'interrogation. Il est extrait du disque Equal Crossing, disponible chez Abalon, l'autre distribution, et sera à prendre dans la figure ce dimanche 4 septembre au studio de l'Ermitage, dans le cadre du festival Jazz à la Villette.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Los que saben de cine dicen que Ava Gardner era el animal más bello del mundo, que hizo 50 películas, deshizo a cientos de amantes y que expiraba sexo después de aspirar 4 martinis. Puede ser. Yo no sé mucho de cine ni me gustan los zoos, aunque por mi cama ha pasado una deliciosa fauna de muchachas y unas cuantas expertas en ofrecerse al espejo soberbias actuaciones. Y me ha bastado una noche contigo y verte a 4 patas, la cara contra el suelo, el culo desafiante, la espalda arqueada de placer mientras rugías pidiendo más, aunque doliera, para saber que el animal más bello del mundo eres tú.
Éloigner les enfants hispanophones du poste, hein, car c'est une scène sensuelle, une scène de sexe aussi, un rêve d'amour signé Carlos Salem. C'est dans le recueil de poésie El Animal. C'est donc cet auteur de polar argentin que vous avez rencontré au festival du Goéland, Laureline Matuissi.
Du Goéland masqué.
Du Goéland masqué, pardon. C'est très important. Lui-même, il a un grand foulard, Carlos Salem, un foulard de pirate sur les cheveux, une voix absolument magnifique qui fait de la musique, hein, par ailleurs. Et donc, vous avez décidé de mélanger un peu vos univers. À ce moment-là, sur le blog, avant de faire ce roman graphique, hein, Je me suis échappé du ciel, avant d'adapter ses textes à lui, vous le présentez, son travail, comme celui d'un type qui fricote avec les bas-fonds, qui fricote avec les soulards désemparés et leurs fantômes fessus qui rêvent d'amour tendre avec beaucoup d'alcool fort. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans cette adaptation, cette réminiscence graphique travail de Carlos Salem qui suinte ces épithètes et toutes ces définitions que vous donnez de lui?
Alors en fait, c'était pas exactement une définition que je donnais de lui, c'était bien une définition de ce que je m'apprêtais à faire, en fait. Parce que les fantômes fessus, c'est davantage quelque chose qui m'appartient, donc et que j'ai réinjecté d'ailleurs dans le récit, puisqu'il n'était pas exactement question de fantôme, lui, dans son travail. Et j'ai perdu le fil de la question.
Et du coup, comment est-ce que, on va dire, on retrouve l'univers de Carlos Salem dans ce roman graphique « Je me suis échappé du ciel » ?
Eh bien, on le retrouve parce qu'il y a un certain sens de l'absurde qui me semble être assez présent chez Salem et que j'ai beaucoup aimé aussi transcrire. Enfin, mine de rien, ce roman graphique, il est très onirique, il a une drôle de construction, mais il y a aussi un sens de l'absurde tout à fait certain et une vraie drôlerie aussi. Et de fait, je crois qu'avec ça, à peu près, ça, c'est en mesure de reconstituer ce que j'aime, en tout cas, moi, chez Salem, en fait, ce mélange-là de profondeur sombre et en même temps de puissante drôlerie. Ouais.
Il y a une sensualité aussi, parce qu'il faut rappeler que votre héros, Pau, il est complètement amoureux d'une serveuse de bar qui s'appelle Lola, donc il attend finalement qu'elle ferme le bar et l'embrasse à la fin. Hein. Comme dans tous les bons polars, il y a du bistrot, il y a des femmes, il y a des flingues. Comment aussi la sensualité, vous avez décidé de vous en emparer dans ce roman graphique, aussi quelque chose un peu félinien avec des fantômes de femmes à la 8h30?
Eh ben, ne serait-ce que dans le rapport que moi j'entretiens avec le roman noir, alors je dis peut-être une bêtise, mais il m'a semblé que, enfin en tout cas dans le rapport que j'entretiens, ce qui ne veut pas dire que je vais faire une définition du roman noir, mais j'ai l'impression que dans cette tradition-là, des bars enfumés, des ambiances nocturnes, etc., il est vraiment aussi question du corps, en fait. Je me faisais la remarque, je me rappelais par exemple la première fois que j'ai lu un bouquin d'Elroy, c'était le Dahlia Noir, et c'était il y a vachement longtemps maintenant, et ce qui me reste de plus prégnant, c'est ça, en fait, c'est ce rapport à des corps transpirants, à des corps très en vie, en fait, voilà, des corps qui s'apprêtent à mourir et qui, du coup, peut-être sont dans une urgence et une vitalité encore plus grande, en fait, voilà.
Est-ce que vous pourriez nous dire, peut-être avec des mots, ce qui n'est pas forcément facile, comment vous travaillez cette représentation du désir, cette représentation du plaisir, cette représentation du sexe, parce qu'il y a notamment une séquence assez hallucinante et jubilatoire et émouvante, pour dire qu'on est en émoi, de plus de 20 pages, de plus de 20 planches, où votre héros, Pau, fait l'amour avec un ange qui, révélation, a bien un sexe.
Et oui. Mais moi, j'ai beaucoup plaisir, parce que je me suis beaucoup posé la question, effectivement, de la représentation du sexe dans la bande dessinée. Parce qu'en fait, mine de rien, ça il se trouve que enfin, dans mes précédents ouvrages aussi, il y a toujours un rapport au corps, en fait. Je me suis aperçue que ce que j'aimais, moi, par-dessus tout, c'était surtout montrer la puissance du désir et l'énergie, en fait, l'énergie du désir, en fait. Pas exactement montrer du sexe pour du sexe, mais montrer, enfin, est-ce que ça veut dire quelque chose? Si, la pornographie, c'est peut-être ça. Mais montrer l'énergie qui est insufflée là-dedans.
Comment vous travaillez justement, parce qu'on n'a pas les images sous les yeux. Moi, je vois des traits sur les joues des personnages pour montrer qu'ils ont les joues empourprées et le désir qui monte.
Il y a une vraie vitalité où effectivement tout badaboum dans tous les sens. Je ne sais pas comment expliquer ces dessins.
Il y a un jeu de cadrage peut-être qu'on peut décrire.
Oui, alors il y a beaucoup de jeux effectivement sur les mains qui touchent, qui agrippent. Il y a beaucoup de choses comme ça effectivement. C'est à la fois... Ça n'est pas prude du tout, mais en même temps, je tourne quand même autour. En fait, je tourne vraiment autour de l'énergie de mes personnages, quoi. Et ça s'empoigne et ça s'agrippe beaucoup, mais voilà.
Michel Blanc, c'est plus difficile au cinéma parce qu'il y a quelque chose de dénudé dans le fait de filmer le sexe. C'est une question que vous avez pu vous poser en qualité de réalisateur en particulier, parce que vous êtes le réalisateur de quatre films.
On fait la même chose. Ça dépend du cadrage. Mmh. Vous cadrez. Moi aussi, je cadre.
Et vous faites du mouvement aussi.
Et on fait du mouvement. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de montrer ce que le film pornographique, puisque vous en parliez, montre, qui effectivement ne dégage pas d'énergie, mais une réalité très crue et pas tellement formidable. Mm-hmm. À part peut-être pour les gens qui la vivent, hein, mais sur le moment, je sais pas, j'ai jamais été sur un tournage de film porno. Mais par contre, vous avez des choses qui sont d'une intensité énorme dans l'acte sexuel, parce que ça, c'est une des fonctions vitales qui permet la survie de l'espèce. Et que si vous cadrez à un certain moment une main qui s'agrippe ou qui griffe ou quelque chose.
Il faut vous voir faire les gestes. Hein. Vous devenez elle animal, Michel Blanc.
Oui, enfin, c'est pas totalement dans ma nature immédiate, mais de temps en temps, heureusement. Mais voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que la force vitale qu'il y a là-dedans, on peut la capter et la capturer autrement qu'en montrant d'une manière bêta l'acte lui-même.
Laureline Matuissi, ce qui est aussi au cœur de votre travail, de celui-ci en particulier, Je viens de m'échapper du ciel, donc chez Casterman dans la collection Écriture, c'est le noir et blanc. Tout ce roman graphique est en noir et blanc. Un noir et blanc qui parfois, à la faveur du mouvement, s'inverse, il y a une inversion de la polarisation. Comment est-ce que vous travaillez justement, moi ce qui m'est venu, on parlait de Nerval tout à l'heure, c'était le soleil noir de la mélancolie. Comment vous êtes venu comme ça sur l'inversion des lumières et peut-être des couleurs avec ce noir et blanc?
Alors ce qui est drôle, c'est que mine de rien, j'ai réalisé tout ce bouquin la nuit aussi. Et je me suis aperçue que la plupart du temps, j'attendais en fait une partie de l'après-midi que le jour tombe et voilà, pour pouvoir enfin me mettre au travail. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir besoin d'une mise en condition en fait et d'œuvrer comme ça dans ces ambiances très nocturnes de pouvoir travailler presque in situ sur la lumière. Que puis-je vous dire de plus?
Plein de choses. Comment un illustrateur la travaille avec justement les reliefs en fonction du noir et blanc? Ça, c'est votre art.
Comment est-ce que je travaille le noir et blanc? Je peine à répondre à ça parce que c'est très difficile en fait de décrire de l'image là. De fait, je vais certainement trouver une réponse, mais dans quelques minutes, ce qui n'est absolument pas radiophonique, je m'en excuse.
On recommande l'esprit d'escalier. Mais peut-être qu'on peut vous mettre sur la piste. Enfin, par exemple, ce qui frappe quand on lit ce roman graphique, c'est qu'il y a un travail cinématographique du noir et du blanc.
Parce
que vous prenez quand même cette décision radicale d'offrir une page entièrement noir, c'est-à-dire que vous faites littéralement un fondu au noir, mais version roman graphique. Donc, qu'est-ce qui vous a nourri, par exemple, dans cette démarche, justement? Est-ce que c'est l'influence du cinéma?
Alors, oui, et puis je me suis penchée un peu sur la photographie. Alors, je reste très néophyte, en fait, je n'y connais absolument rien, mais j'ai découvert des auteurs comme Saul Leiter, par exemple, que je ne connaissais pas, qui a un rapport à la lumière, et même dans son travail coloré, hein, que j'ai trouvé extraordinaire. Et en effet, j'ai beaucoup travaillé avec une approche... Bon, voilà, je me suis un peu nourrie, comme ça, de bouquins de photos, et puis aussi de la photographie de cinéma, effectivement. J'ai quand même replongé aussi dans pas mal de polars, Enfin voilà, effectivement, il y a un fort rapport au cinéma et à la photographie, oui.
Le fondu au noir, c'est vrai que ça vous donne aussi, au-delà donc de ce parti pris graphique qui est saisissant, on a l'impression aussi que ça vous aide dans le rythme. C'est-à-dire que on est sur une BD qui va s'ouvrir, enfin une BD ou un roman graphique, hein, le débat est encore ouvert, qui va s'ouvrir sur des pages silencieuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue, la voix off, il y a une voix off chez vous comme il y en a dans Un Petit Boulot, donc qui a été scénarisé par Michel Blanc. Vous allez donc avoir une BD comme ça où il n'y a pas de parole au départ. Et est-ce que c'est fondu au noir, on va dire, ces tactiques cinématographiques, elles vous aident pas finalement à donner tout le rythme de ces pages-là?
Mais de toute façon, effectivement, la bande dessinée, de toute façon, repose vraiment sur une rythmique de l'ensemble, quoi. Et ces fondus au nord-là me permettent d'avoir des respirations ou bien, effectivement, des temps, des temps où le récit s'arrête et peut redémarrer ensuite. Donc, en effet, c'est évidemment mis à profit dans l'idée de créer un rythme supplémentaire. Et en effet, ça peut presque être, je ne sais pas si c'est audacieux, mais en tout cas, pour moi, de mon point de vue, c'était une forme d'audace de m'autoriser à faire de la page noire juste pour une raison de rythmique de l'ensemble, quoi. Mais on peut peut-être parler de la rythmique, effectivement, parce qu'il y a un jeu.
C'est très musical, ça. Hein.
Mais c'est incroyable.
Parce que c'est comme une fin de mouvement ou une longue pause.
Oui. Alors c'est très rigolo, mais je pense que ça doit faire la même chose pour tous les gens qui écrivent. Mais je me suis aperçue à quel point est-ce que à ma relecture, en fait, j'ai un métronome en fait qui bat la mesure et le moindre heure interagit avec. Enfin, c'est vraiment intéressant à quel point c'est musical, effectivement. Et de mon côté, en plus, la nuit et la musique aussi ont vachement interagi sur ce récit. Moi aussi, la musique a beaucoup compté. J'ai écouté beaucoup de choses qui ont imprégné cet ouvrage.
It was a night out. They were going to remember for a very long time.
Rocky Horror Picture Show, c'est entonné dans votre bande dessinée, Laureline Mathusi. Vos deux héros, Poe et Harley, sont au volant et ils se mettent à chanter. Et vous avez donc parlé des influences musicales qui ont présidé à cette bande dessinée, ou ce roman graphique. Ça, c'est effectivement, ça n'a rien à voir avec l'atmosphère en noir et blanc, l'atmosphère de polar social, amoureux, fantasmagorique. Pourquoi est-ce que vous leur faites chanter ce There's a Light in the Darkness du Rocky Horror Picture Show?
Bon, déjà parce qu'ils sont en voiture et qu'effectivement, il y avait quand même une interaction avec le récit aussi, une histoire d'ombre et de lumière, etc. Ensuite, parce que justement, c'était presque un peu à contre-emploi, parce que il y a une espèce de joyeuseté un peu décadente, de ce dont je me souviens du Rocky Horror Picture Show, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais et voilà, et qui était marrante parce qu'en fait on est avec ces deux personnages qui sont seuls en train de traverser au contraire des paysages de friches industrielles, quelque chose d'assez morose, etc., et qui dans cette obscurité, alors il se trouve que c'est un fou en fait qui accompagne
Poe
à ce moment-là.
Ah oui, c'est le fou parce qu'il a un acolyte, il a aussi un acolyte invisible.
Et tous les deux deux se mettent à entonner cette chanson-là. Et j'aimais aussi l'idée que ça leur redonnait un relief un peu plus naïf, en fait, que ces personnages-là très, très complexes et plus sombres. Tout d'un coup, ça, je sais pas, pour moi, ça évoquait ça, une joyeuseté naïve. Et puis, pour ceux qui connaissent le Rocky Horror Picture Show, c'est marrant parce qu'effectivement, il y a aussi cette idée un peu de décadence que je trouve marrante. Mais,
Il y a aussi Michel Blanc dans Un petit boulot, donc ce film de Pascal Chaumeil dont vous signez le scénario et où vous jouez le mafieux, le cerveau criminel Gardeau,
un truand local, quoi, disons.
Et il y a aussi une traversée des friches industrielles avec un personnage qui chante dans sa voiture, un personnage autrement plus inquiétant peut-être que les gentils et fous héros de Je viens de m'échapper du ciel et qui chante du Céline Dion. Il y a cette question.
C'est une idée totale, excusez-moi de vous interrompre, mais de Pascal. Ce n'est pas Pascal dans le scénario, Chaumeil. C'est Pascal Chaumeil qui a eu l'idée que pendant ce qui était écrit comme un moment où, pour des raisons qu'on comprend après, il est en voiture. Et je trouve que c'est... Donc il chante ça. Et il chante Céline Dion. Et c'est formidable parce que ce type est vraiment le seul type totalement épouvantable. C'est magnifiquement joué par Alex.
Voilà, c'est à la fois drôle et glaçant.
Il est génial. Ce qu'il dit est glaçant et en même temps c'est drôle, mais c'est une ordure. Et de savoir que cette ordure, quand il a fait son boulot, rentre à son hôtel en chantant ça, je trouve que c'est une idée formidable de Pascal.
Il y a cette question de la folie qui est au cœur de la bande dessinée de Laureline Matuissi, mais qui est aussi au cœur des agissements et des questionnements des personnages de Un petit boulot. Et on a l'impression qu'entre, dans le tandem, on parlait de Poe et Harley, le tandem de Jacques et de Gardeau, donc de Romain Duris, ce chômeur qui va se retrouver à devenir tueur à gages, et du petit mafieux local qu'il emploie, que la folie, c'est un peu comme des vases communicants. Quand il y en a un qui déconne, l'autre se met à devenir rationnel et inversement.
Oui, au début, on a l'impression qu'il y a un type qui sait ce qu'il veut, qui est très fort, et l'autre qui est à la dérive. Et puis, comme c'est vrai qu'il y a un rapport père-fils qui s'installe assez rapidement, il y a un moment où le fils, comme parfois dans les entreprises, le fils se dit « Là, papa est en train de dérailler, il faut que je le ramène. » Et c'est un jeu entre les deux, effectivement, c'est tout à fait juste.
Et c'était plaisant de dérailler, justement, parce que vous avez dit l'effroi et le plaisir, donc sans doute que vous avez pris à jouer ce méchant qui est prêt à tirer avant de parler, mais aussi le caïd qui déraille, qui débloque.
Bah oui, parce que j'aime pas les personnages tout d'une pièce. En plus, dans la vie, les gens sont rarement tout d'une pièce. Ce qui est intéressant, c'est de voir... J'aime bien les personnages qui sont pas gris, mais qui sont noirs et blancs. Voilà. Et tous les personnages de ce film sont noirs et blancs. Quand je citais la phrase « Je suis honnête jusqu'au bout des ongles, je lui ai dit que je la tuerais », il y a d'un côté le blanc et de l'autre côté le noir. Et c'est le même type qui dit ça. Et ça me paraît pas absurde parce que beaucoup de gens sont comme ça. Alors c'est pas pour ça qu'ils sont bipolaires ou schizo, mais voilà. Et c'est très très plaisant à jouer parce qu'on n'a pas à jouer un personnage monocorde. Ce qui est la pire des choses sur un tournage, c'est que votre personnage joue tout le temps globalement la même partie, quoi, la même note, la même au début on découvre, puis après on se dit je continue à faire pareil. Mais quand il est surprenant parce qu'il est inattendu et en même temps que c'est cohérent par rapport à ce qu'on veut dégager de lui, c'est extrêmement intéressant à jouer, dangereux. C'est pour ça qu'il faut un metteur en scène pour vous dire là, tu vas trop loin ou tu peux y aller plus.
Vous qui avez travaillé avec Tavernier, avec Gainsbourg, avant de montrer La Troupe du Splendide, est-ce qu'il y a un moment, justement, post-aventure du Splendide, aventure des Bronzés, justement, les rôles monochromiques, ça vous a fatigué un peu?
Fatigué. Oui. J'ai pas fait ce métier pour faire toujours Jean-Claude Duss toute ma vie. Jean-Claude Duss a été formidable pour moi parce qu'il nous a propulsés tous. Enfin, je veux dire, Jean-Claude Duss, les Bronzés, nous ont propulsés tous au rang de gens qui pouvaient aller voir un producteur avec un projet. Le problème, c'est qu'en même temps, ils nous ont un petit peu laissé bronzer, piégés, parce que ils nous disaient oui, non, c'est bien ça, mais refais un truc dans le même style, refais. Et il y a un moment après Marche à Londres, qui pour moi est le premier film que j'ai réalisé, mais pour moi, c'était le dernier
de ma période café théâtre entre guillemets, j'ai décidé de ne plus accepter d'aller dans cette direction là. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça aurait pu durer 10 ans sans que je travaille. Et il se trouve que à peine 2 ans après, Bertrand Blier m'a proposé Tenue de soirée. Donc il est venu me repêcher et j'ai de nouveau eu accès au film d'auteur. Mais il y a eu 7-8 ans où nous étions et où je me sentais un peu paria, intouchable.
Laureline Mathuissi, on a aussi cherché à vous enfermer dans des cages. Je crois que vous avez étudié non seulement la bande dessinée à Angoulême, mais aussi la place de la nourriture dans l'art à l'université.
Oui.
Et puis vous avez signé à la fois des romans graphiques autour de la question qui s'adressait à la jeunesse, et puis L'île au poulailler qui vous a valu des prix avec une histoire de piratesse. Aujourd'hui, c'est du Carlos Salem matinée, donc de polar, on l'entend, de folie, de rêve, de désir. Vous cherchez à échapper à ceux qui vous poursuivent et qui voudraient vous cataloguer, aux éditeurs ?
Ah non, j'ai la chance de pas avoir à échapper à quoi que ce soit pour l'instant. J'ai réussi à chaque fois en fait à proposer des choses qui ont réussi à voir le jour. Donc non, je n'échappe à rien. J'essaye de faire mon chemin en espérant qu'on continue à accepter mes livres. En fait, c'est plutôt ça l'enjeu.
Mais... Et sinon, à la question du désir, parce qu'on a l'impression, j'avais lu cette phrase une fois chez une auteure de polar française, Fred Vargas, qui décrivait la rencontre entre son héros Adamsberg et une femme comme et leur rapprochement comme les 50 centimètres les plus longs de l'histoire de l'humanité. Cette distance qui sépare un homme et une femme ou deux êtres qui s'aiment au moment où ils vont conclure, comme dirait Jean-Claude Duss, au moment juste avant de s'étreindre, de s'embrasser. On a l'impression qu'entre Poe et Lola, cette barmaid qu'il désire, c'est ça tout l'interstice qu'il y a au cœur de votre roman, ces 50 centimètres presque infranchissables.
Oui, mais en fait, ce livre, c'est à la fois une histoire d'amour et une histoire d'errance. Et en fait, de mon point de vue, c'est davantage l'histoire de l'errance de ce personnage, Poe, et d'une espèce de réalité qui s'effrite autour de lui, que véritablement l'histoire d'amour. En fait, l'histoire d'amour vient... Je sais pas comment expliquer ça. Elle est importante, hein, cette histoire d'amour.
Sauver,
mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, le récit démarre de cette façon où, en fait, on a ce personnage de Poe qui est allongé en plein milieu de la route avec le personnage du fou. Ils sont dos à dos. Ils sont complètement allongés, mais tête à tête, de fait. Et c'est la nuit et ils attendent qu'une voiture arrive. Et voilà. Il lance des dés en quelque sorte, elle les écrasera, elle les écrasera pas. Et il se trouve qu'elle ne les écrase pas. Et il y a une phrase qui revient à chaque fois, d'ailleurs, de la part du fou qui dit « le ciel doit se trouver ailleurs ». Et à partir de ce moment-là, en fait, je pars sur un récit que j'ai voulu, en termes de construction, coller avec cette histoire, cette idée de l'errance du personnage, et donc quelque chose qui perd de sa linéarité en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des événements passés, présents, futurs, qui finissent par s'enchevêtrer. Et voilà, et qui me semblait coller aussi avec cette espèce de désarroi du personnage principal, mais qui pose aussi la question de, dans le fond, est-ce qu'il n'est pas déjà mort, en fait ? Et Lola, peut-être, sera une possibilité de survie, en tout cas, voilà, parmi toute cette espèce de cercle de... Vous m'avez fait un petit signe et ça m'a complètement perturbée.
Se tenir au bord de l'amour et du désastre. Une phrase que vous retiendrez donc de ce roman graphique de Laureline Mathuissi. Ping pong. C'est déjà fini. Nous étions au bord.
Et nous y restons. Au bord de la falaise, on espère galvaniser, en tout cas projeter vers les librairies pour découvrir Laureline Mathuissi, votre nouvelle BD, votre nouveau roman graphique. C'est donc chez Casterman, collection écriture, « Je viens de m'échapper du ciel » et pour courir dans les salles obscures, pour chercher un petit boulot dont vous signez non seulement le scénario Michel Blanc, mais aussi vous êtes l'affreux et délicieux et sympathique Gardeau.
Le ping-pong est une intrigue radiophonique sympathique qui s'écrit en équipe et quelle équipe à la rédaction Aïssette Wendoy, Jeanne Léos, Seam Boutata et Mathilde Cadreau, à la réalisation Thomas Beau et à la prise de son ce soir Anthony Thomasson et Dali Yaha.
Et demain, eh bien, nous recevrons François Ozon pour Franz, qu'il présentera samedi à la Mostra de Venise, et puis Diane de Margerie pour son roman À la recherche de Robert Proust chez Flammarion. Oh, oui.